Radio Okapi.
Travaux de réhabilitation de l'aéroport de Bangboka, le ministre des Transports et Voies de Communication les a lancés ce mercredi à Kisangani. Dans ce journal, Jacques Moukonkole nous donnera des amples détails sur ces travaux. 34 personnes sont mortes dans des attaques de miliciens de la Codeco dans les villages de Oké, Chaba et Guélé, dans les territoires de Djougou et Maagui en Ituri. Des tueries injustifiées en violation de l'engagement de ces groupes armés en juin dernier pour la cessation des hostilités en Ituri. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Damien Twambilangane. Il est le coordonnateur pour le Grand Kassai de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Il assure que la province du Kassai central peut avoir du courant électrique dans 18 mois à partir de Chit Mbombo. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans la province de la Tchopo, le ministre des Transports et Voies de Communication a lancé officiellement hier à Kisangani les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Bangboka. C'était en présence des autorités politico-administratives locales ainsi que celles de la régie des voies aériennes. En quoi consistent ces travaux et combien de temps seront-ils réalisés et quel en est le coût? Un reportage de Jacques Moukonkole.
Ces travaux consistent à l'élargissement de la piste d'atterrissage à une largeur de 60 mètres et une longueur de 3500 mètres. Il sera également question du renforcement et de l'extension du tarmac ainsi que du balisage. Pour le ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende, la politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le domaine aéronautique, vise à redorer l'image du pays dans les concerts des nations et les tirer du désenclavement dans le domaine de la circulation aérienne. Pour sa part, Madeleine Nikomba, gouverneur de province, a exhorté l'entreprise chinoise Chinese First, qui exécute les travaux, à les réaliser avec conscience. Le coût global est évalué à 19 millions de dollars américains, un financement conjoint de la Banque africaine de développement et du gouvernement congolais. Les travaux seront exécutés en 5 étapes et s'étendront jusqu'en 2023. Ici, tout le monde est unanime à reconnaître que la réhabilitation des sites aéroports aura un impact positif, aussi bien sur le trafic aérien de la province que sur son économie. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au Kwilu, pendant ces temps, les paysans du territoire de Bulungu éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer leurs produits agricoles, à savoir le manioc, le maïs, l'arachide et autres, vers les centres de consommation, dont la ville de Kikwit, de Kinshasa et autres. Cela à cause de l'état de délabrement très avancé des routes de dessertes agricoles, comme le déclare l'administrateur de ces territoires. Bernardin Mwankimi pense que la concrétisation par le gouvernement central du programme de développement local de 145 territoires pourra décanter cette situation. Il explique au micro de Irène Mbouma.
L'état de nos routes actuellement, c'est vraiment dégradé, abîmé, détérioré. Ça pose des problèmes. La route de Bulungu, Makoso et Kambulungu, arrivée à la montagne de Kiyaka, c'est tellement abîmé. Nous arrivons encore à Makoso. Il y a un endroit là difficile qu'on appelle Moutiang. Donc là, c'est vraiment tellement abîmé. De Bulungu, secteur Nko, et vous sortez Mukinzi pour arriver au Kambulungu. L'espace là, donc tronçon, Kingwaya, Bulungu, ça pose problème. Donc, pour le moment ici, évacuer les produits agricoles au chef-lieu du territoire de Bulungu ou bien dans nos villages, dans nos secteurs, ça pose problème puisque les routes de dessertes agricoles abîmées, quand les routes sont abîmées, comment on va évacuer les produits agricoles des villages au centre de consommation? Pour la réhabilitation des routes, nous demandons au gouvernement national de concrétiser le projet de PDL 145 territoires. Là, je pense que les gens auront la facilité d'évacuer librement leurs produits dans des centres de consommation.
Et puis en plus bref, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, l'angolais João Lourenço, le burundais Évariste Ndayishimiye et le rwandais Paul Kagame autour d'une table ce mercredi sous la facilitation de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta à Luanda en Angola, nous renseigne une dépêche de la présidence congolaise. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a donné son accord de principe pour participer à cette rencontre de Luanda. L'objectif est de cette rencontre est de faire avancer les discussions sur la feuille de route route de Luanda, mais aussi harmoniser les agendas du processus de Luanda et celui de Nairobi, dont la finalité est de mettre définitivement un terme à l'insécurité créée par l'invasion des troupes terroristes du M23 et leur parrain rwandais dans l'est de la RDC. En Ituri, nous l'avons dit au sommaire, 34 personnes sont mortes dans des attaques de miliciens de la Codeco ayant ciblé mardi les villages d'Oké dans les territoires de Djougou et Chaba et Gélé dans celui de Mahagi. Selon des sources concordantes, d'autres personnes ont été blessées et enlevées par ces assaillants et les dégâts matériels sont énormes. Des voix s'élèvent pour condamner ces tueries injustifiées en violation de l'engagement de ces groupes armés en juin dernier pour la cessation des hostilités en Ituri. Isaac Remoyopi.
La première attaque de la milice Codeco s'est produite mardi matin dans deux villages, Chaba 2 et Gélé, dans la chefferie des Angales, dans les territoires des Mahagi. Ces miliciens ont occupé ces deux entités pendant presque toute la journée en tirant des coups de feu. Des sources concordantes avancent un bilan de 8 morts, dont 5 enfants de moins de 12 ans et un blessé et un déplacement massif de la population. La deuxième attaque a été déplorée le même mardi vers 15h30 au village des Oké, dans la chefferie des Baïma Nord, dans les territoires des Djougou à la lisière de celui des Mahagi. Selon des sources de sécurité, 26 civils ont été tués par un groupe de miliciens de la Codeco. Parmi les victimes, il y a 7 enfants, dont 4 filles, 6 femmes et 13 hommes. Ces miliciens ont également pillé plusieurs biens et emporté des vaches, dont le nombre n'est pas encore déterminé. Ces attaques ont suscité des réactions des acteurs de la société civile et des notables qui dénoncent ces tueries à grande échelle après plusieurs mois d'accalmie observée dans la région. Ils dénoncent également les retards pour l'effectivité du programme de désarmement et démobilisation par les gouvernements. Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, en Nord Kivu, 16 civils ont été tués en l'espace de 2 jours dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF dans 3 villages du groupement de Batangi Mbau dans le territoire de Beni. Selon le président de la société civile de la localité de Mamové qui livre l'information, il s'agit là d'un bilan provisoire d'une double attaque des assaillants hier mardi et lundi dernier. Des soldats FRDC déployés dans la région étaient intervenus pour repousser les assaillants après le drame, indique notre source. André Kitenge pour les détails.
Cette double attaque a eu lieu en pleine journée d'hier mardi et du lundi dans 3 villages du groupement de Batangi Mbau, à savoir Moliso Makakwa, Akwekwe et Kalalangwe. Nous sommes à la limite entre la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Selon le président de la société civile de la localité de Mamové qui livre l'information, toutes les victimes ont été tuées à l'arme blanche dans leurs champs respectifs. Kinos Katuo indique que les civils tués sont tous habitants de Mamové et Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Cette situation a causé un déplacement massif de la population vers des endroits jugés sécures, indique la même source. Tout en appelant la population à la vigilance, cet acteur de la société civile recommande au FRDC de multiplier les patrouilles de combat dans la région afin de protéger la population civile. Il plaide également pour le renforcement des FRDC afin de faire face à ces attaques armées à répétition dans la région. Tous nos efforts pour joindre le porte-parole des opérations Sokola 1 pour obtenir la version de l'armée se sont avérés vains. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Par ailleurs, toujours au Nord Kivu, des tirs ont été entendus dans la matinée. Ce mercredi, au niveau de Kishiché, le village est situé à environ 3 km du chef-lieu du groupement de Bambo. La situation crée une panique dans cette partie de la chefferie de Buitu, située à l'ouest du territoire de Rutshuru. Pendant ce temps, au troisième jour consécutif, une certaine accalmie est observée ce mercredi dans la zone de Kibumba, au nord de la ville de Goma. Blaise Shindani.
Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues entre 5h et 9h locales dans le village de Kishiché, témoignent les habitants, joints ce matin à Bambo, chef-lieu du groupement du même nom dans la chefferie de Buito. Certaines sources indiquent que les combats opposeraient les rebelles du M23 aux combattants Nyatura, alors qu'un officier FARDC contacté sur place parle plutôt d'une attaque de leur position par les rebelles. Ces combats à Kishiché provoquent la panique auprès des populations riveraines de Bukombo, Birambizo et de Kirima. Les habitants fuient vers Kichanga, Kibirizi et même vers Lubero. Pour rappel, sur les 7 groupements que compte la chefferie de Buito, les rebelles contrôlent totalement Tongo et partiellement Bambo. L'occupation des Bambo leur donne la possibilité de sortir par Kirima et Kibirizi et couper la route Rwindi, Nyanzale, Kichanga dans les groupements Mutanda et Bukombo. C'est une source d'inquiétude pour les acteurs locaux. Ces derniers affirment que l'occupation de Tondo donne aux rebelles une possibilité de sortir par Kichanga en passant par le groupement des Bichoucha sur l'axe ouest. Du côté de Kibumba, une accalmie persiste depuis 3 jours. Pour autant, une psychose de la population irène dans la mesure où les rebelles sont présents dans la zone des trois antennes qui est à moins de 20 km de Goma.
Et puis au Sud Kivu, plus de 5000 jeunes, filles et garçons, ont décidé de rejoindre les FARDC. Ils ont été présentés hier mardi au gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabije Kassi. La cérémonie a eu lieu au camp militaire Sayo, devant le commandant de 33e région militaire. Ils sont venus de la ville de Bukavu et ses environs pour combattre les forces négatives et protéger l'intégrité du territoire national. Le gouverneur Théo Ngwabije les a rassurés de l'accompagnement du gouvernement provincial pour l'encadrement et leur évacuation vers les centres de formation militaire. L'autorité provinciale a aussi invité la population à être vigilante et à la mobilisation pour faire échec à cette guerre d'agression dont notre pays est victime. La même adhésion des jeunes est également signalée dans le territoire de Calais où plus de 800 jeunes volontaires sont également rassemblés pour intégrer l'armée. On reste au Sud Kivu. Vive tension cet avant-midi entre les députés provinciaux et l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Certains députés ont signé une motion de censure contre le gouvernement provincial au moment où un autre groupe de députés demande la déchéance du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Emmanuel Amégi.
Le tout est parti d'une motion de censure contre le gouvernement provincial du Sud Kivu par un groupe de députés provinciaux. Lundi 21 novembre, le vice-président de l'Assemblée provinciale affirme avoir transmis la notification au gouverneur de province pour sa défense devant les députés pour ce jeudi 24 novembre 2022. Quelques heures après, un groupe de députés provinciaux dépose une pétition contre deux membres du bureau définitif dont le vice-président et le rapporteur. Mardi 22 novembre, d'autres députés provinciaux déposent eux aussi une autre pétition, cette fois-ci contre le président et le questeur. Du coup, la confusion s'installe. Le rapporteur adjoint instruit le directeur de l'Assemblée provinciale de convoquer une plénière ce mercredi pour installer le bureau d'âge, ce qui fâche un autre camp de députés pétitionnaires. Déjà, tôt le matin de ce mercredi, une vive tension s'observe devant l'Assemblée provinciale à Bukavu. Des jeunes gens manifestent et brûlent les pneus en présence des éléments de la police. Signalons que l'année dernière, la même situation avait prévalu entre le gouvernement et l'Assemblée provinciale, toujours en pareille période de fin d'année. Emmanuel Lamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Autre nouvelle, plusieurs coins de la RDC sont déstabilisés par des pluies diluviennes qui occasionnent des dizaines de décès, des habitations détruites par les eaux de pluie, des inondations, des routes coupées et tant d'autres dégâts. Certains députés ont, dans leur motion d'information au cours de la plénière d'hier à l'Assemblée nationale, sollicité l'intervention du gouvernement pour venir en aide aux populations victimes de ce dégât de pluie. La situation est plus préoccupante dans le Sankuru, le Tanganyika et le Sud Kivu. Pour le député national Jean-Claude Kibala, cette misère causée par les dégâts de pluie à Kamituga dans le Sud Kivu vient s'ajouter sur plusieurs autres difficultés occasionnées notamment par l'exploitation désordonnée de l'or. Jean-Claude Kibala est au micro de Michel Kifindangoy.
Dans la nuit du lundi au mardi, une pluie diluvienne surprit la population de Kamituga en pleine nuit. Le bilan actuel nous renseigne de 16 morts et plusieurs maisons détruites dans ce coin de la République où il y a déjà énormément beaucoup de problèmes. La route numéro D qui relie la capitale du Sud Kivu, la ville de Bukavu, à la ville de Kamituga est totalement détruite. Il y a peu de temps ici, revenir sur la question de l'exploitation minière, c'est toujours à Kamituga où les entreprises ont détruit les champs, les étangs, les maisons des citoyens à la recherche de l'or. Et jusque-là, le gouvernement n'a pas encore indemnisé les personnes sinistrées. Et donc, c'est une situation catastrophique de plus pour cette population sinistrée. Et nous sollicitons que le gouvernement puisse se mobiliser pour apporter une assistance humanitaire à cette population.
Et puis, la troisième journée de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine qui se tient à Niamey, au Niger, a été marquée par la réunion de haut niveau sur l'industrialisation inclusive et durable. Celle-ci, comme moteur de résilience, de la création d'emplois et de la stabilité du Sahel et d'autres pays africains victimes de conflits armés récurrents, dont la République démocratique du Congo. Les détails avec Alain Irung.
C'était l'occasion pour la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes du Niger d'inviter les partenaires techniques et financiers d'accompagner réellement l'Afrique dans la transformation locale de ses ressources naturelles, un processus qui va contribuer à décourager les jeunes à adhérer au sein des forces négatives. Gourouza Salamatou.
Les responsables de ces zones de tension, ils viennent puiser dans la population jeune qui est inactive, qui manque de ressources et qui n'ont, j'allais dire, quasiment rien à perdre en s'enrôlant. Leur vie n'a presque aucun sens pour eux aujourd'hui.
Au nom de la RDC, le ministre de l'Industrie, puisant dans son expérience de 12 ans à la tête de la province du Nord Kivu, a fait savoir que le président Félix Tshisekedi est plus que déterminé de faire de l'industrie un facteur de paix et de stabilité. Julien Paluku Kaungia.
Le développement industriel de l'Afrique, qui par ce fait va s'autonomiser, parce que l'Afrique va accroître sa production interne, va renforcer son produit intérieur brut et donc va limiter les importations.
Signalons que plusieurs partenaires techniques et financiers, ainsi que les gouverneurs du Haut-Katanga et du Olomami, dont leur province régorge certains minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication des précurseurs des batteries électriques, ont pris part à ce panel.
Actualité internationale.
Deux explosions considérées comme des attaques par les autorités israéliennes ont fait au moins 15 blessés ce mercredi matin à Jérusalem, selon les secouristes. Une explosion à un arrêt de bus à la sortie de Jérusalem a fait 12 blessés, dont deux grièvement, et une seconde à une autre station a démoli un autocar et fait 3 blessés, selon les secouristes, alors que la police israélienne a qualifié ces deux explosions d'attaques, rapporte l'AFP.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Damien Toambilangane. Il est le coordonnateur pour le Kassai, Grand Kassai de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANCER. Il assure que la province du Kassai central peut avoir du courant électrique dans 18 mois à partir des chutes de Mbombo. Il s'entretient ici avec François Kadima. Suivez.
Monsieur Damien Toambilangane, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui est né un mouvement de jeunes qui porte le projet Chute Mbombo. Et ces jeunes disent que voilà, il est possible de passer par cette alternative pour avoir du courant au Kassai central, particulièrement dans la ville de Kananga. Pour eux, les études ont été faites. Parlez-nous de ce qui est fait sur Chute Mbombo, parce que les jeunes ont vu en serre faire quelque chose.
D'abord, moi je salue la naissance de ce mouvement, qu'ils appellent, je crois, Dynamique Chute Mbombo. Ça, c'est une très bonne chose, c'est un signal que la population voudrait s'approprier des réalités de sa province. Alors, nous pensons qu'ils ont raison. Au niveau de Chute Mbombo, même déjà à l'époque, on parlait de KTND2 avec la CODESCO et tout ça. Des études ont déjà été faites, plusieurs études ont déjà été faites sur le site Mbombo, qui montrent que le site a un potentiel de plus ou moins 20 mégawatts. Mais par rapport à la synthèse des études que nous on a faites maintenant, nous partons avec 12 mégawatts d'abord et puis le reste pourrait venir après. Et à ce jour, nous avons à notre disposition non seulement les vieilles études sur Mbombo, mais nous avons la synthèse d'études aujourd'hui parce qu'on a pris ces vieilles études qui ont été mises à jour avec les nouvelles technologies, avec les finances et tout ça. Ça c'est déjà une chose, ça veut dire côté études, c'est déjà quelque chose d'intéressant et d'acquis. De l'autre côté, il y a des partenaires techniques et financiers. Vous savez, on a libéralisé le secteur d'électricité et libéralisé. Toutes les sociétés ou toute personne peut aujourd'hui construire son aménagement hydroélectrique ou solaire, commencer à vendre de l'électricité. C'est dans ce contexte-là aussi qu'ANCER a la mission d'accompagner les privés qui viennent dans le secteur et même, d'ailleurs, on a même un fonds pour accompagner ces privés. Et dans les cadres de Chute Mbombo, nous avons plusieurs sociétés privées intéressées. Il y a un engouement, en fait. Plusieurs sociétés privées intéressées ayant les moyens pour pouvoir entrer dans ce processus de construction de l'aménagement hydroélectrique de Mbombo.
Alors, pour Mbombo, l'étude a démontré qu'il est possible de travailler sur quelle période et pour quel coût?
L'étude montre que les travaux de la centrale hydroélectrique de Mbombo pour 12 MW peuvent s'étaler sur 18 mois. Dès que toute la paperasse est prête, dès que les contrats sont signés, et maintenant on commence les travaux, 18 mois sont suffisants pour pouvoir produire les 12 MW. Mais tout en sachant que les 12 mégawatts, on les produit dans la même période progressivement, avec une turbine de 3 mégawatts, ça veut dire que déjà, au bout d'une année, on peut avoir déjà 3 ou 6 mégawatts. mégawatts avec les premières turbines qui sont installées. Donc, en 18 mois, nous avons la possibilité d'avoir les 12 mégawatts sur le site Mbombo. Ça, c'est la première chose. Et le budget global estimé par rapport et à la production et à tout ce qui est électromécanique et le réseau qui a déjà même été étudié est estimé à plus ou moins 35 640 000 dollars. Et ce budget est disponible au niveau des partenaires techniques et financiers. Mais au-delà de ça, nous, on a même fait nous-mêmes une démarche au niveau même des banques. Il y a certaines banques qui se sont engagées, qui sont prêtes à pouvoir mettre des millions sur la table. Nous avons fait des démarches aussi au niveau, et c'est en cours encore, hein, au niveau de notre ministère des Finances, parce que nous nous disons qu'il faut aussi quelque part que l'État congolais participe, même si les partenaires techniques et financiers ont tous ces moyens.
Selon la planification, si il faut parler des travaux, les choses peuvent débuter quand?
Vous savez, les choses sont en train d'aller très vite. Moi, selon les prévisions que j'ai devant mon tableau, si toute la paperasse qui peut prendre plus ou moins un mois maximum, si toute la paperasse est faite, travaux peuvent commencer à la fin du mois de janvier. 1er février, les travaux peuvent commencer et puis on compte 18 mois. Tout en sachant qu'avant la fin de l'année prochaine, on peut déjà avoir la première turbine, la deuxième, qui commence déjà à desservir, mais on va bien compter les 18 mois. Donc si toute la paperasse... Alors maintenant, c'est à ce niveau-là de la paperasse que je voudrais un peu m'apesantir, parce que nous rencontrons beaucoup de lourdeurs administratives. Vous voyez, je vous ai parlé l'autre fois de nos projets pour lesquels on a de l'argent, pour des projets des mini-centrales solaires et hydroélectriques, mais on a passé presque 4 mois au niveau de la Direction Générale de Passation des Marchés. Si nous ne rencontrons pas cette lourdeur administrative au niveau de la Direction Générale de Passation des Marchés, il est vraiment très possible que la paperasse aille très vite, et nous souhaitons que le 1er février que puisse commencer déjà les travaux, vu que les études existent.
Monsieur Damien Tombilangani, nous vous disons merci.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Mimi Kindou. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination d'Élisée Tikota et la supervision de Martin Sebujangwe. Merci également à vous pour votre particulière attention.